Ce balado vous est présenté par interbible.org, le portail biblique francophone. Bienvenue à cette émission des récits insolites de la Bible. Ici Sébastien Daune, bibliste, avec vous pour un autre épisode d'une série où je vous propose de redécouvrir la Bible à partir de ses récits insolites. Lorsqu'on lit les évangiles, on voit souvent Jésus réaliser toutes sortes de miracles. Certains sont plus particuliers que d'autres. Aujourd'hui, je vous propose un exorcisme qui implique une légion de démons et un troupeau de porcs qui finit par se suicider dans la mer. C'est une histoire assez abracadabrante qui saura vous intriguer. Bonne écoute! Au début de chaque émission, j'aime prendre le temps d'interagir avec ceux et celles qui prennent la peine de nous contacter pour poser leurs questions ou donner leur point de vue sur des sujets abordés. Cette semaine, j'ai sélectionné une question de Guillaume de Laval qui nous écrit. Depuis quelque temps, je mets en doute l'existence du personnage de Jésus parce qu'en dehors de la Bible, aucun historien contemporain ne semble parler de lui. Est-ce que Jésus a vraiment existé? C'est une excellente question et voici ce que je vous propose comme réponse. Pour les sciences historiques, l'existence de Jésus n'est pas un point litigieux. Tous les historiens modernes l'admettent sans aucune difficulté. Donc, au point de vue des sciences de l'histoire, Jésus a existé aujourd'hui. La négation de l'existence de Jésus a été quelque chose dont on parlait au 18e, 19e siècle. C'était comme une arme du rationalisme antichrétien de cette époque-là. Mais là, on est passé à d'autres choses. Parce qu'il y a toutes sortes d'attestations qui écrivent ou qui parlent de Jésus de Nazareth. D'ailleurs, c'est le personnage de l'Antiquité pour lequel on a le plus d'attestations. 99% des personnes qui ont vécu à l'époque de Jésus, on n'entend pas parler d'eux, ou on a très peu de choses qui ont été écrites à leur sujet, alors que Jésus, lui, on retrouve beaucoup de choses. Il y a des historiens romains qui nous en parlent, comme Flavius Joseph, qui était un juif qui est devenu, qui travaillait pour les Romains. Il y a aussi d'autres écrits juifs. Puis il y a surtout le Nouveau Testament. On ne peut pas le mettre de côté comme ça, le Nouveau Testament. Les références précises se trouvent facilement dans la littérature sur Jésus de l'histoire, le Jésus historique. C'est une question qui est très intéressante. Il y a beaucoup de recherches qui se font sur le Jésus historique. Si ça vous intéresse, trouvez des livres là-dessus, vous allez voir, il y a plein de choses. Je disais que le Nouveau Testament, on ne peut pas le mettre de côté si facilement que ça, parce que bien qu'il soit partial, oui, c'est des disciples, c'est des chrétiens qui nous parlent de Jésus, mais ils ont quand même le droit de parole et ça ne veut pas dire qu'ils, même s'ils adaptent, ils réinterprètent, ils nous parlent de leur interprétation de qui était Jésus, ça ne veut pas dire qu'ils ont inventé ce personnage-là quand même. Le vrai problème, ce n'est pas tant l'existence de Jésus, ça c'est quand même assez bien établi, c'est l'interprétation de qui il était. Il n'y a personne dans la communauté scientifique qui doute de l'existence de Jésus de Nazareth. C'est plutôt ses faits, ses gestes, c'est leur interprétation par les premiers chrétiens qui sont mis en question aujourd'hui. Autrement dit, on admet que Jésus a bel et bien existé, même qu'il a exercé peut-être une mission prophétique avec des disciples, mais c'est plutôt les conclusions théologiques des premiers chrétiens qui sont remis en question. Par exemple, on ne peut pas prouver la résurrection de Jésus ou l'affirmation qu'il est Messie ou Fils de Dieu. Ça, c'est du domaine de la foi et pas de la science historique. Alors donc, chacun est renvoyé à sa propre perspective de foi pour savoir si oui, Jésus est ressuscité ou c'est le Christ. Donc, merci beaucoup à Guillaume pour cette question qui est fort pertinente et je vous encourage à faire comme lui, à nous écrire tout simplement à auditoire@radiovm.com pour nous faire parvenir vos commentaires, vos questions ou même ce que vous découvrez avec ces émissions. Le temps d'un instant musical, on en vient à notre sujet principal. Jésus va se mesurer à une légion de démons. Mais ne vous inquiétez pas, je vous donne le punch tout de suite, Jésus va réussir son exorcisme. voici l'un des extraits les plus bizarres des Évangiles. Il décrit un exorcisme particulièrement original. Tout dans ce récit va nous dérouter, nous surprendre. Regardez bien ce qui va arriver au démon. On se croirait presque dans un film d'épouvante américain comme The Exorcist.
Ils arrivèrent de l'autre côté de la mer, au pays des Géraséniens. Comme ils descendaient de la barque, un homme possédé d'un esprit impur vint aussitôt à sa rencontre, sortant des tombeaux. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car il avait été souvent lié avec des entraves et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les entraves, et personne n'avait la force de le maîtriser. Nuit et jour, il était sans cesse dans les tombeaux et les montagnes, poussant des cris et se déchirant avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui. D'une voix forte, il crie : « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait : « Sors de cet homme, esprit impur. » Il l'interrogeait : « Quel est ton nom ? » Il lui répond : « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, du côté de la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits impurs supplièrent Jésus en disant : « Envoie-nous dans les porcs pour que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et ils sortirent, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite et rapportèrent la chose dans la ville et dans les hameaux. Et les gens vinrent voir ce qui était arrivé. Ils viennent auprès de Jésus et voient le démoniaque, assis, vêtu et dans son bon sens, lui qui avait eu le démon Légion. Ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et à propos des porcs. Et ils se mirent à supplier Jésus de s'éloigner de leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à être avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit : « Va dans ta maison auprès des tiens et rapporte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » L'homme s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement.
Un premier élément insolite se trouve dans le refuge de l'homme en question. Il se cache dans les tombeaux. À l'époque de Jésus, les sépulcres prenaient souvent la forme de grottes naturelles qui pouvaient offrir un abri. Bien entendu, ces lieux étaient considérés comme impurs pour un juif. La détresse et l'exclusion du possédé sont décrites de façon assez frappante. On voit qu'il est enchaîné. Il crie. Il se déchire même avec des pierres. Alors, il est en train de s'auto-mutiler dans le fond. Tous les détails de cette description permettent à un juif de cette époque-là d'affirmer que cet homme-là est presque pas humain. Il vit avec des morts, il y a des bêtes, il y a des porcs comme voisins. Alors les porcs, c'est des animaux impurs. Il possède une force qui est qualifiée de surhumaine. Il crie et il se blesse lui-même. À quelque part, pour l'homme de la Bible, c'est quelque qui est pire qu'une bête. Il représente le mal et les forces du mal. En fait, il semble même plus proche de la mort que de la vie. Un autre élément particulier du récit est que l'homme interpelle Jésus en le nommant « Fils du Dieu Très-Haut ». Avez-vous remarqué ça? Puis il va se prosterner devant lui. Parfois dans les Évangiles, les démons semblent savoir qui est Jésus beaucoup mieux que ses disciples ou sa propre famille, comme on l'a déjà vu. C'est pas pour rien, les démons, ils viennent d'en haut, ils viennent du monde de Dieu, des esprits. Alors, ils sont au courant de qui est Jésus. Puis s'amorce un dialogue surréaliste entre Jésus et l'esprit impur. Jésus lui demande son nom, puisque dans le monde biblique, la connaissance du nom, ça donne un pouvoir sur une personne. Connaître le nom de quelqu'un, c'est avoir un pouvoir sur lui. Le nom, c'est l'identité de la personne. Jésus force donc l'esprit à dire qui il est, et son nom, c'est Légion. Ça suppose un régiment de démons, ça, qu'il affirme qu'il est Légion. Une légion romaine, si vous ne le savez pas, c'est 6 000 hommes. La situation est grave, là. C'est plus juste un démon qui est en face de Jésus, mais une armée de démons. Symboliquement, le récit, c'est plus le récit de la guérison d'un homme, mais la victoire de Jésus sur le mal et ses représentations. Une croyance populaire voulait qu'à cette époque, qu'un démon, quand il était chassé, devait trouver un refuge ailleurs. Je vous dis ça parce que je l'ai lu dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 43. Je vous le cite. « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il parcourt les régions arides en quête de repos, mais il n'en trouve pas. » Donc, dans notre récit, la légion de démons reçoit l'autorisation de Jésus de sortir, mais là, il lui demande « Est-ce qu'on peut entrer dans ce troupeau de porcs? » Et Jésus leur donne cette autorisation-là. Comme on l'a déjà dit brièvement, la loi juive le dit que le porc est considéré comme un animal impur. C'est interdit pour un juif d'en manger, encore aujourd'hui d'ailleurs. C'est donc normal, à quelque sorte, pour qu'un esprit mauvais essaie de s'enfuir, qui trouve refuge dans un porc qui est un animal impur. Un détail à ne pas manquer, c'est que les démons vont demander la permission à Jésus d'entrer dans ces porcs-là. Cette précision-là montre encore une fois que Jésus a autorité sur eux, sur cette légion de démons. On va regarder la symbolique de la mer maintenant. Les porcs, possédés par les démons, vont se précipiter dans la mer pour y mourir noyés. Le lecteur familier de la Bible n'est pas nécessairement surpris que ce récit va établir un lien entre les démons et la mer. Parce que dans différents livres bibliques, la mer est souvent porteuse d'une symbolique négative associée au mal. Le peuple hébreu, il provient du désert. Il y a un contact assez limité avec la mer. Et ce qu'on en parle, c'est surtout le côté terrifiant qu'on en parle. Alors, par exemple, Genèse 6 à 9, lorsque le déluge, c'est le déluge va tout détruire. C'est la mer qui détruit ça avec ses flots terrifiants. La mer est souvent aussi associée aux créatures maléfiques, au mal. Par exemple, le symbole ultime du mal, c'est le chapitre 13 de l'Apocalypse qui nous le donne avec la bête. La bête de l'Apocalypse va surgir de la mer. Dans la culture biblique, la mer semble être le siège des forces du mal. Mais en même temps, il y a une autre façon de voir l'eau qui est de façon très, très, très différente. L'eau peut être positive. Par exemple, dans le livre du Lévitique, on parle beaucoup d'impureté. Et on constate que la façon que le Lévitique nous propose de retrouver la pureté, c'est souvent d'aller se laver et d'offrir des sacrifices. Alors dans cette ligne de pensée-là, l'eau purifie. Et la noyade des démons dans la mer pourrait être interprétée comme la fin du pouvoir démoniaque sur la région et la libération de l'impureté par le contact de l'eau. L'eau a purifié les démons au point de les détruire. Alors donc on a deux interprétations, soit les démons retournent dans leur endroit naturel, la mer qui est symbole du mal, soit ils sont purifiés par l'eau, qui peut aussi avoir cette connotation de purification dans la Bible. Bon, avec tout ça, comment comprendre cette histoire? Au fond, je crois que ce récit nous parle surtout de l'identité de Jésus. Il va nous révéler, sa force qui est plus grande que les forces du mal. Même en terre païenne, on est bien en terre païenne, hein? Il y a un troupeau de porcs qui est là, Jésus garde autorité sur les démons. Puis cette interprétation, moi, je pense qu'elle est validée par le récit de la tempête apaisée, Marc 4, les versets 35 à 41, qui précède celui de la guérison du démoniaque. En apaisant la tempête, Jésus montrait qu'il avait autorité sur les forces de la nature, mais surtout qu'il était maître de la mer, le lieu du mal. Ensemble, les deux récits, qui sont un à côté de l'autre, envoient le message que Jésus est plus fort que les démons et les forces mystérieuses du mal. On peut voir aussi un lien avec un autre récit qu'on a abordé, le récit où on parlait de la famille de Jésus. On l'a lu, on en a parlé, et on voyait que la famille disait que Jésus était fou, qu'il avait perdu la raison, et que sa famille l'accusait, lui Jésus, d'avoir un esprit impur. On a vu ça, Marc, chapitre 3, verset 30. Jésus, à quelque part, a déjà vécu, lui aussi, ce que l'homme possédé vit dans notre récit. Lui aussi a été mis de côté, rejeté, pour une raison similaire. On disait de lui qu'il avait un esprit impur. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a une certaine sensibilité à la réalité de cet homme possédé, qui est capable d'aller vers ce, bon, on pourrait dire « fou » entre guillemets, pour le rencontrer et lui redonner une existence véritable, dis-je. L'histoire se termine avec l'homme qui a été guéri. Après avoir vécu ces événements, il se met à proclamer à son tour que le Seigneur a fait quelque chose de grand pour lui. Et il affirme ça dans cette région non-juive. Alors donc, on est dans une terre de païens et on parle de Jésus et de tout ce qu'il fait. Et son expérience devient le prélude de l'évangélisation en dehors d'Israël. C'est comme si c'est un récit qui nous parle de qu'est-ce qui va arriver après la mort de Jésus. Et moi, ça, ce qui me frappe aussi à ce moment-là, c'est l'attitude des Géraséniens, alors l'attitude des personnes de cette région-là, devant le démoniaque. Il aurait pu dire « Waouh, bravo, c'est incroyable, on est super content pour toi ». Non, au contraire. C'est eux qui avaient tenté de l'enchaîner puis de l'exclure de leur vie normale. Puis, ils ne pensaient pas du tout à essayer de l'aider ou de le libérer. Au contraire, le récit mentionne à deux reprises qu'ils voulaient le lier, l'enchaîner. Puis de son côté, l'homme criait, s'automutilait même, pour dire aux autres qu'il existait, qu'il souffrait. Mais le plus incroyable se trouve dans la réaction à la fin des habitants de la région, après l'exorcisme, lorsqu'ils voient le démoniaque assis, vêtu et dans son bon sens. Alors, ils voyaient que ça marchait bien, qu'il était de retour à la réalité normale. Bien, eux, ils sont saisis de crainte. Puis ils se mettent à supplier Jésus de quitter la région. Jésus a bouleversé leur communauté. Ils ont guéri l'homme qui devait être exclu. Puis là, il faut le réintégrer. Ça bouleverse notre communauté, ça change tout. Les Géraséniens vont devoir apprendre à modifier leur perception et leur relation avec celui qui disait être démoniaque et qui ne l'est plus. Comment faire des liens avec notre réalité contemporaine en partant de ce récit-là? Bien, pensez-y et on en parle après un peu de musique. Vous êtes avec Sébastien Donde dans une série d'émissions consacrées aux récits insolites de la Bible. Aujourd'hui, nous parlons d'un exorcisme que Jésus a réalisé pour libérer un possédé d'une légion de démons qui, suite à l'action de Jésus, entre dans un troupeau de porcs et va se jeter dans la mer. Je vous ai demandé comment lier ce récit avec nos vies. Je ne sais pas si vous avez eu des idées. Peut-être que vous pourrez m'écrire par courriel pour me les transmettre. C'est auditoire@radiovm.com. Mais je vais vous proposer ma propre réflexion personnelle. En partant de diverses activités que j'ai vécues dans une communauté qu'on appelle l'Arche, fondée par Jean Vanier. C'est avec des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. J'ai compris avec eux que cette dynamique décrite par l'Évangile se répète encore aujourd'hui. Parmi les personnes que j'ai rencontrées à l'Arche, puis c'est des personnes qui aujourd'hui sont mes amies, il y a Denise, que j'aime beaucoup et que je salue si jamais elle m'écoute. Lorsqu'elle était petite, Denise, à vivre des choses assez difficiles avec les personnes, entre guillemets, normales. Elle voulait jouer avec eux, avec les autres enfants. Et un jour, les enfants lui ont dit « Viens jouer avec nous ». Et c'était un piège. Les enfants dits normaux l'ont attaché, l'ont mis dans un cabanon, dans le noir. Et ça a été un événement assez difficile pour elle, jusqu'à temps que sa mère vienne la chercher. Et encore aujourd'hui, quand elle en parle, elle en pleure parce que ça l'a touché extrêmement de s'être fait exclure comme ça et de s'être fait attacher parce qu'on disait qu'elle était folle, qu'on disait qu'elle était handicapée. Alors, une autre Monique que j'aime aussi beaucoup, qui est encore une fois membre de l'Arche, elle a eu à vivre dans un hôpital psychiatrique quand elle était plus jeune. Et elle se rappelle, avec beaucoup de douleur, c'était très difficile pour elle, la fameuse camisole de force qu'on utilisait à cette époque-là. Pour Monique, avec les médecins, et pour Denise, avec les enfants normaux, on voit que ces personnes-là agissaient comme les habitants du pays des Géraséniens. Ils les ont liés, Denise et Monique, parce qu'ils n'étaient pas dans la normalité. Pourtant, lorsqu'on ose aller à la rencontre de ces personnes-là, lorsqu'on ose rencontrer Denise, Monique, on voit bien que oui, ils ont un handicap intellectuel, mais qu'on peut bâtir une relation de confiance avec elles. On voit qu'il s'agit bel et bien de personnes humaines, avec des émotions, des joies, des peines. Puis elles, comme nous, aspirent à s'épanouir, à avoir une vie heureuse. Et moi, comme je travaille dans une école, le Collège Saint-Jean-Vianney, bien, j'amène tous les élèves en secondaire 4 vivre une journée avec moi à l'Arche de Montréal. Et ils vivent là-bas une journée très intéressante où ils comprennent que ces personnes-là, oui, sont déficientes intellectuelles, mais ils ont bien des choses à nous apprendre au niveau relationnel. Ils ont un trésor qu'on peut aller découvrir et ils ont des choses à nous apprendre. On n'est pas juste là pour aller les aider, on va là pour découvrir quelque chose. Il est aussi possible de faire une analogie entre la souffrance de l'homme possédé et celle qu'on rencontre autour de nous. Chaque année à l'école, je suis en contact avec des élèves qui, comme dans l'homme du récit, vont s'automutiler. Quel phénomène choquant pour ceux qui ne comprennent pas la souffrance de l'autre. Pourquoi est-ce que tu vas te couper dans ta propre chair? Pourquoi cries-tu ta souffrance de cette façon-là? Les réponses sont fort complexes et différentes pour chacun, mais elles nous interpellent à les écouter, à les aider, pour qu'ils puissent se libérer de ce qui cause leur souffrance. On voit bien qu'aujourd'hui, encore une fois, les hommes, les femmes de notre temps, les jeunes, souffrent de l'exclusion, du regard des autres, comme le démoniaque de l'Évangile. Par sa guérison, Jésus ouvre un chemin d'humanité. Même si ce geste lui vaut lui-même d'être rejeté, d'être mis de côté par cette communauté qui lui demande de quitter la région. Bien, je pense que pour devenir chrétien, pour suivre Jésus, nous aussi nous devons aller vers les exclus et les regarder comme des êtres humains à part entière, au risque d'être rejetés nous-mêmes par les bien-pensants. C'est déjà le moment de se dire à la prochaine. J'espère que le récit de cet exorcisme particulier vous a donné de la matière à réflexion. Encore une fois, je pense que c'est un bon exemple pour montrer que, oui, un récit insolite qui nous surprend, qui est bizarre, qui est bien et bien dans la Bible, peut nous donner matière à réflexion. Vous pouvez lire les récits abordés dans notre émission dans un livre intitulé « Mais d'où vient la femme de Caïn? Les récits insolites de la Bible » que j'ai écrit aux éditions Novalis et Mediapole. Si vous avez commentaires, questions, réactions, gênez-vous pas, écrivez-nous. On prend toujours le temps de vous lire et même de vous lire en ondes au début de l'émission à auditoire@radiovm.com. C'est la façon de nous rejoindre. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la sainte colère de Jésus au temple, mais avez-vous entendu de la colère de Jésus envers un pauvre figuier qui ne porte pas de fruits? Puis c'était même pas la saison des figues. On va essayer de comprendre tout ça la prochaine fois. En terminant, merci à Marie Laferrière pour sa lecture de la Bible, merci à Alain Primeau à la technique, et surtout merci à chacun, chacune d'entre vous pour votre écoute attentive de ces récits qui parfois peuvent être un petit peu déstabilisants. C'était Sébastien Daune, bibliste. À bientôt.